Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Unos metros también para Geraint Thomas, que va a perder tiempo en la primera gran etapa de montaña de este Tour de Francia.
Les grandes gueules du sport.
Piloter un avion, c'est aussi facile que de faire du vélo.
Et à peine plus compliqué que de jouer au 421.
En direct de Barcelone.
Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Rejoindre le général de Gaulle.
Vamos Javier, que puede ser. Ahí está Javier Ochoa, el gran protagonista de la etapa de hoy.
Vous avez la chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend longtemps, puis ça passe vite.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous. Hola a todos. On prend l'accent espagnol aujourd'hui. Nous sommes à Barcelone, en Catalogne, sur la colline de Montjuïc, au parc olympique des Jeux de 92. C'est ici que va se jouer l'arrivée de la première étape du contre-la-montre par équipe de Barcelone. 113e édition du Tour de France. Les grandes gueules en déplacement avec Marc Madio. Salut Marco.
Salut.
Ça va?
Ça va très bien.
Petit parfum du départ du Tour. On a hâte que ça commence à chaque fois quand on est...
Moi, je suis pressé de quitter le premier hôtel de la course.
Ah oui, c'est
le tour pour moi, un grand tour. Non, c'est pas une histoire que ce soit bien ou pas bien. C'est que psychologiquement, quand tu sors de l'hôtel pour ne pas y revenir le soir, ça y est, le tour est parti.
Ah oui, c'est ça. Il faut que ça parte.
Il faut que ça bascule.
Jérôme Pinault est là. T'es d'accord, hein, Jérôme?
Moi, j'étais tellement bordélique que j'étais bien content de rester dans le même hôtel. Ça m'évitait de refaire ma valise.
C'est ça. Oui, parce que vous arrivez depuis le mercredi. Hein,
ouais, ouais.
Là, on est le,
c'est long.
On est
le, non, on est c'est très long pour les coureurs.
C'est les 4 jours les plus longs de la saison.
Ouais, ouais. Ah, bah,
c'est pas l'attente, ça. Puis l'attente. T'as envie de
c'est la même chose sur les 3 grands tours. Hein. Les jours qui précèdent le départ, c'est
très long.
Ouais. Très long.
Bon, le plus dur, c'est quand même après, hein, quand vous partez pendant 3 semaines pour faire 3
km. Mais une fois que la course est lancée, que tu es dans ton rythme de course, que tu es dans tes habitudes de course. C'est différent.
Pascal Duprat est là. Salut Pascal.
Bonjour Pascal.
Il est les pieds dans la piscine.
Pascal.
Oui, vous m'entendez?
Ah, c'est bon, je t'entends Pascal.
Oui, comment ça va les amis? Ça va, écoute, je suis avec les pros du vélo. Je suis honoré, je suis trop content.
Ah bah oui, et d'autant plus qu'on a un programme exceptionnel. Je sais que notamment tu as été un fan de Bernard Hinault dans ta vie tout simplement. Il sera avec nous tout à l'heure, le quintuple vainqueur du Tour, pour nous parler, peut-être donner des conseils à Paul Sexas. On verra, parce que on va parler évidemment de la première du grand espoir français à 19 ans. Est-ce qu'il faut être exigeant avec lui? On sera avec Dominique Series, son patron d'équipe, et Christian Prudhomme va nous rejoindre dans un instant, le directeur du Tour. À 10h sur le ring, quart de finale de la Coupe du Monde France Paraguay, à 23h évidemment, à suivre sur RMC. Didier Deschamps a-t-il changé? Est-ce qu'il vous surprend pour sa dernière Coupe du Monde? Vous votez sur le compte XDGG. Le zapping, on va parler des matchs de la nuit au Mondial. Ça a été très chaud pour l'Argentine,
hein. Oui.
Très très chaud.
T'as mal dormi, hein.
On n'a pas dormi. Tout simplement. Ils sont passés en prolongation face au Cap-Vert. Et puis évidemment, on va parler dans le vestiaire quand on prend le départ d'un Tour de France ou qu'on participe à une Coupe du Monde, quand un sport de haut niveau se confronte à son rêve de gosse. On va en parler ensemble. Je pense que ça va être très intéressant. On va suivre également aujourd'hui, dans ces grandes gueules du sport, un énorme match de rugby entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande. C'est à Christchurch et c'est Clément Brossard qui va suivre ça pour nous. Salut Clément.
Salut Georges, salut tout le monde. Enceinte merveilleuse ici à Christchurch. Vraiment cette verrière sublime pour l'inauguration en compétition internationale de cette enceinte-là. Les Bleus qui n'ont plus gagné en Nouvelle-Zélande depuis 2009, qui sont un petit peu reformés aujourd'hui avec le retour de Damien Penaud et surtout beaucoup beaucoup de jeunesse. Il y a aussi un premier match à négocier pour Dave Rennie, le nouveau sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Match toujours ô combien important quand il est l'heure d'affronter les Blacks. Le coup d'envoi dans quelques secondes.
Le coup d'envoi effectivement de ce match entre les Bleus qui jouent en blanc aujourd'hui à Christchurch face aux All Blacks. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez un bon cadeau de 50€ à valoir sur Agfa Photo Print. Hein, vous pourrez imprimer vos photos de vacances, hein, par exemple. Faire un magnifique album photo du Tour de France, pourquoi pas. Vous faisiez ça, les albums photo du Tour?
Oui.
Pas trop. C'est vrai?
Bah oui. Ah. La célèbre marque.
Ah, formidable ça. T'as des albums photos de tes Tours de France, Marco?
Non, il n'y en avait plus à cette époque-là. J'ai Sprint 71 et 72.
Ah, ça c'est les magazines, effectivement. Mythique. Pour participer au jeu du sport, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, à la une, votre feuilleton préféré de l'été débute aujourd'hui. L'année écoulée nous a fait avoir cette réflexion. Et si la saison 113 du Tour de France était la meilleure?
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
La génération de Tadej
Tadej Pogacar à la lutte avec Mathieu Van Der Poel. Victoire de Tadej Pogacar, 18e victoire de Tadej Pogacar sur une étape de Tour de France et 100e victoire de sa carrière.
Un record de plus pour Jonas Vingegaard et un grand tour de plus aussi après avoir remporté à 2 reprises le Tour de France, après avoir remporté la Vuelta l'année dernière dans 24 heures à Rome. Il remportera pour la première fois de sa carrière le Giro d'Italia.
Sexas, pour l'instant, je pense que c'est Lille.
Et c'est Paul Sexas qui va s'imposer. 3e victoire de la semaine pour Paul Sexas. Le maillot jaune bien accroché sur ses épaules à la veille donc de cette dernière étape.
Le vainqueur le plus jeune de l'histoire de la Flèche Wallonne. Victoire de Paul Sexas en patrouille. Il a attaqué à 200 mètres de l'arrivée et il a gagné. Paul Sexas, il envoie un gros message. Il sera là, Paul Sexas. Et il a encore une fois montré qu'il était le plus fort aujourd'hui, Paul Sexas, vainqueur de la Flèche Wallonne.
Tadej Pogacar va-t-il rejoindre le club des 5, le club des 5 victoires sur le Tour? Comment que-t-il Merckx, Hino, Indurain? À moins que Vingegaard, fort de sa victoire sur le Giro, mette fin à l'hégémonie du roi Poggi. Et Paul Sexas va-t-il dès son premier tour confirmer les espoirs d'un peuple français qu'il imagine en élu, hein? Marc, il aime pas quand on repasse l'histoire de l'élu.
Non, ça me gêne pas, mais on m'attribue un mot qui ne m'appartient pas, ouais, qui revient au maître Christophe
Cessieux. Tu répondais à une question. Oui, ce Français qui ramènera le maillot jaune à Paris pour la première fois depuis 85, est-ce que ce sera lui? Peut-être pas dès cette année. Réponse dans 3 semaines, après 21 étapes, 3221 km de course. Ça commence aujourd'hui à Barcelone avec un chrono par équipe. Je salue toute l'équipe de l'Intégral Tour qui finit de se compléter. La voix, Christophe Cessieux est là. Salut Christophe.
Bonjour à tous, comment ça va les copains?
Bah très bien, très bien. Et Jérôme Coppel est avec toi, salut Jérôme.
Salut Georges, salut les amis.
Salut. Les GG, je vous pose cette question, très simple pour débuter. Est-ce le tour le plus excitant depuis des années? Marc Madio.
Oui, mais...
Ah, Jérôme Pinault.
Oui.
Jérôme Coppel.
Oui.
Christophe Cessieux.
Oui, mais. Je vais, comme le maître. Comme maître maître.
Pascal Duprat. Oui. Eh bien, vous êtes tous de très bonne humeur et optimistes avant de débuter de Tour de France.
Ça tombe bien,
puisque Christian Prudhomme, le directeur du Tour, nous rejoint dans les GG du sport. Salut Christian. Est-ce que Christian Prudhomme est là? On va le retrouver dans un instant, j'imagine. Ah, c'est bon, on a retrouvé, j'ai reconnu la voix singulière du patron du Tour. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et merci salut d'être Christian. Avec nous en ce jour de grand départ. Et si je ne me trompe pas, Maria Azé, notre voix du cyclisme toute la saison sur RMC, est à tes côtés. Salut Maria.
Oui, à ma gauche.
Bonjour tout le monde, salut Georges, salut à tous.
Christian, avant de parler de ce Tour avec toi, Maria, les adversaires de Pogacar ont-ils confiance en leur capacité à renverser le roi de son trône?
Bah forcément un peu difficilement hein, quand on voit la saison de Tadej Pogacar écrasant sur le Tour de Suisse et le Tour de Romandie, vainqueur de Liège, d'Estrade Bianchi, du Tour des Flandres, de Milan-San Remo. En plus il aura à ses côtés une équipe exceptionnelle avec un équipier, Isaac Del Toro, qui serait probablement leader dans 90% des équipes du peloton. Il est prêt, le Slovène, on l'a vu très affûté jeudi à la présentation des équipes. Il a perdu les quelques kilos qu'il avait pris pour les classiques, alors évidemment son principal adversaire Jonas Vingegaard s'en méfie.
Je continue de penser que Tadej est sans doute le meilleur coureur que le peloton ait jamais connu. Donc pour moi aussi, avoir réussi à le distancer est quelque chose de vraiment incroyable. C'est une chose dont je suis extrêmement fier. Et ça me motive aussi à essayer de le refaire cette année pour me donner la conviction que je fais partie de ceux qui sont réellement capables de le challenger.
Vingegaard aussi est sur une saison exceptionnelle, vainqueur sur toutes les courses où il a pris le départ, notamment le Giro pour cocher la case des 3 grands tours remportés dans sa carrière. Parmi les autres favoris, Paul Sexas, évidemment, il découvrira son premier Tour de France dans sa jeune carrière, donc difficile de se projeter. L'armada Red Bull est également au départ avec Remco Evenepoel, le double champion olympique, et Florian Lipovits, 3e du Tour de France l'année dernière. Mais même Remco Evenepoel, qu'on sait très ambitieux d'habitude, n'a pas parlé de victoire à la conférence des favoris.
Personal goal, yeah, win a stage, for sure. Win.
L'objectif est de gagner une étape. On vise le contre-la-montre et le maillot jaune avec l'équipe. On va être sur le podium, Florian ou moi. Si on travaille bien, on sera bien.
With some other guys as well.
Pour espérer battre Tadej Pogacar, tout commence dès 17h aujourd'hui avec le contre-la-montre par équipe où Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard vont tenter de prendre le maximum de temps sur le Slovène.
Merci Maria, tu restes avec nous. Important d'écouter la voix des favoris. On est avec les GG et avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour. Alors Christian, je sais que en départ du Tour de France, tu veux surtout nous dire qu'on est parti pour 3300 km de sourire sur le bord des routes.
C'est un bon représentant du commerce. Ah,
Mais c'est ton 20e Tour de France, si je ne me trompe pas, comme directeur du Tour. Est-ce que tu sens qu'il y a un frémissement différent autour de ce Tour-là? Et évidemment, il y a le nom de Paul Sexas qui y participe.
Oui, bien évidemment, puisque depuis trois mois, depuis que j'étais ici à Barcelone à 100 jours du départ du Tour, je n'ai pas fait une seule interview, et j'en fais un certain nombre, sans qu'on me parle de Paul Sexas. Qu'il s'agisse des Français, des Espagnols, des Belges, des Hollandais, des Britanniques, des Allemands, des Colombiens, tout le monde nous parle de Sexas. C'est-à-dire que ça va au-delà de la France. Maintenant, bien évidemment, le super favori du Tour, il s'appelle Tadej Pogacar. Le super challenger, il s'appelle Jonas Vingegaard. Dans le rôle du troisième homme, en revanche, je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'il s'appelle Evenepoel? Est-ce qu'il s'appelle Lipovitz? Est-ce qu'il s'appelle Post-Sexas? Les trois semaines qui viennent nous le diront, mais je pense qu'on aura déjà des éléments d'appréciation dès ce week-end.
Est-ce que le directeur du Tour de France, effectivement, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette édition, a quand même la crainte que Pogacar ait la volonté de tout chloroformer tout de suite sur ce Tour de France?
C'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Mais on a voulu un Tour de France qui aille dans son parcours crescendo, avec des Pyrénées plutôt adoucies et des Alpes au contraire renforcées, avec la double ascension de l'Alpe d'Huez le vendredi et le samedi qui précède l'arrivée finale à Paris. Donc ça a été fait vraiment pour qu'il puisse y avoir une bagarre jusqu'au bout. L'avant-dernière étape du Tour, qui sera la plus dure du Tour à cette place-là. Hein. J'ai lu parfois que j'avais dit que c'était l'étape la plus dure d'histoire du Tour. Non, la plus dure à la veille de l'arrivée finale du Tour de France, les 5450 mètres de dénivelé, même avec 3 minutes d'avance, quand on doit affronter la Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier et la montée à l'Alpe d'Huez par le col de Sarène, aucun coureur ne pourra dire j'ai gagné. Maintenant, peut-être que le maillot jaune à ce moment-là prendra encore plus d'avance dans cette avant-dernière étape, je n'en sais rien.
Tiens, petit tour de table, Christian, avec les grandes gueules du sport. Marc Madiot, est-ce que tu penses que Pogacar va vouloir frapper un grand coup assez rapidement sur ce Tour?
Pogacar, il est particulier. Moi, j'imagine qu'il va installer un rapport de force très rapide. Il va mettre sous pression les autres, il va leur faire comprendre, même si ça ne se concrétisera pas forcément avec des écarts conséquents, il va leur montrer et leur dire, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, et c'est moi le plus fort. Et ça, quand on est coureur cycliste, qu'on est dans un peloton, c'est quelque chose que l'on ressent. Alors ça ne se traduit pas forcément dans les écarts de temps, ça se concrétise dans le rapport de force mentale entre les principaux protagonistes. C'est un peu comme quand je fais souvent référence, quand on est à l'entraînement avec les copains dans une équipe cycliste. Il y a Jérôme qui me regarde et qui se marre, et il sait ce que je vais dire. Quand on est à l'entraînement dans une équipe, souvent on roule deux par deux. Et il y a un petit jeu qui consiste à avoir le petit quart de roue d'avance sur le copain qui est à côté de soi. Et bien, le premier rapport de force que va mettre Pogacar sur ce Tour de France, toute proportion gardée, c'est ce quart de roue d'avance sur Vingegaard, sur Sexas et les autres.
Non mais Marc, tu te rends compte ce que tu as en train de dire là, du coup, Christian Prudhomme dans la voiture rouge. Maintenant, ils vont devoir dire dans Radio Tour quart de roue d'avance pour le dossard 1.
C'est peu visible dans les écarts, mais dans le rapport de force mentale, c'est extrêmement important.
Jérôme.
Je m'attends à ce que le parcours dessiné par Christian et ses équipes, il est très difficile pour une équipe qui va devoir gérer le maillot jaune. Et je pense que l'avantage et la force de Tadej Pogacar, et je serais pas étonné que ce soit son plan, c'est que de faire un super premier week-end ici à Barcelone et d'implanter sa supériorité mentale en disant voilà, je suis là.
J'ai 20 secondes d'avance.
Mais le maillot, je vous laisse.
J'ai 20 secondes d'avance, mais vous n'allez pas me les reprendre tout de suite.
Et le maillot, je vous laisse et on se reparle dans 3 semaines. Et là, il prendra un ascendant psychologique parce que est-ce qu'il en a besoin? Oui. Je suis persuadé que tout champion qu'il est, il a besoin de se rassurer et de savoir qu'il
non,
est.
Non, mais de se rassurer et surtout de ne pas donner d'espoir.
On finit le petit soir avec Jérôme Coppel. Jérôme?
Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que viennent de dire Marc et Jérôme. Je suis assez d'accord avec le fait qu'il va assommer, ou en tout cas montrer qu'il est le plus fort sur le week-end à Barcelone avant de laisser le maillot. Et je pense qu'il n'en a pas besoin de prouver qu'il est le plus fort. On l'a entendu dans les interviews, tout le monde est unanime pour dire que c'est lui le favori. Il n'en a pas besoin, mais il en a envie, parce qu'il a toujours envie de montrer qu'il est le plus fort. Et il a toujours envie de montrer que même s'il ne court pas beaucoup, il est là, et que le Tour de France, entre guillemets, lui appartient, parce que c'est la plus belle course du monde et parce qu'il veut la gagner une cinquième fois. Mais comme a dit Gégé, c'est un Tour de France qui va être très difficile à contrôler, même et s'il a une équipe énorme. Christian l'a dit, le parcours monte un peu crescendo, donc je ne le vois pas du tout prendre le maillot jaune du premier jour au dernier jour. Il faudra forcément à un moment donné qu'il le laisse, mais plus tu tapes tôt psychologiquement sur tes adversaires, mieux c'est pour la victoire finale.
Mais bon, le parcours c'est quelque chose, mais ce sont les coureurs qui font la course, et je suis sûr que Bernard Hinault nous le rappellera tout à l'heure quand il sera avec nous. On avait Christian Prudhomme, le directeur du Tour, dans la grande gueule du sport. Tiens, Christophe Cessieux, question avec Christian.
Pardon, qu'est-ce que tu mets? J'ai pas compris, Georges.
Une question à Christian, Christophe?
Ah, une question à Christian. Ouais. Ah,
ben je veux. Si tu veux bien encore me parler, je suis un peu déçu. Mais... Tout le monde est sympa avec moi. Et non, tu mais moi. Pas.
Oh mon Christian, mais évidemment, nous sommes des copains d'enfance ou presque. Juste un truc. Est-ce que
toi,
tu as
peur,
Christian?
J'étais pas beaucoup toi, plus toi jeune, qui étais en culotte courte, oui c'est sûr.
Toi qui en 61 était un tout petit garçon, un bébé presque. On se souvient. Jacques Anquetil cette année-là avait porté le maillot jaune de la première à la dernière étape. Est-ce que tu crains que cela puisse arriver cette année ou dans les années qui vont venir avec un garçon comme Pogacar? Est-ce que c'est une crainte d'un directeur du Tour?
Alors, pour compléter ta vérité historique, en 1961, le premier jour, il y a des demi-étapes. La première demi-étape est remportée par André Darrigade. Mais le soir, en effet, Jacques Anquetil prend le maillot qu'il va porter jusqu'au bout. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, mais je suis tout à fait dans le sens de ce qui a pu être dit par les uns et les autres. C'est-à-dire que je le vois frapper fort ce week-end, oui. Vouloir montrer qu'il est le plus fort sans aucun doute. Le parcours est fait pour ça. Montjuïc dans le contre-la-montre par équipe cet après-midi et puis demain. Demain, c'est quand même un circuit final avec trois fois 1,6 km à plus de 9% à franchir. C'est pas le final classique du Tour de Catalogne. C'est un final beaucoup plus rude. Donc les favoris du Tour seront là et Pogacar sera là. Après, en effet, il y a beaucoup d'étapes qui sont faites, j'allais dire, pour des baroudeurs de la montagne de très haut niveau, pour un Thomas Vauclair de la meilleure époque, pour un équivalent Thomas De Gendt, pour un Ben Illy de l'année dernière. Et la possibilité pour un coureur de ce type-là d'aller garder le maillot jaune pendant quelques jours. Je pense qu'il y aura un changement de maillot jaune dans la troisième étape avec l'arrivée aux Angles, parce qu'il y a un col très dur, le col de Lozès, à 70 km de l'arrivée. Je pense que là, les super favoris du Tour, notamment Pogacar, Vingegaard, n'iront pas courir après tout le monde. Mais oui, il y a une possibilité évidemment qu'une année, un coureur comme Pogacar soit maillot jaune du premier au dernier jour.
Christian Prudhomme, on en a parlé tout à l'heure de Paul Sexas, effectivement, qui est dans toutes les interviews, même les interviews étrangères. Est-ce que aussi, en tant que directeur du Tour, Christian, il y a une attention à ne pas écraser aussi Paul Sexas de par la pression, de par le poids du Tour de France, d'en faire le juste équilibre, j'ai envie de dire, aussi sur les sollicitations avec lui et ce qu'il va y avoir autour de lui?
Alors Georges, nous disons tout ça, nous dans l'organisation, moi comme vous, journaliste, consultant, puis en fait on parle tout le temps de lui. Donc voilà, ça c'est la réalité. Il va se retrouver face à quelque chose, Paul, qu'il ne connaît pas. Quand j'étais adolescent, j'entendais Henri Lecomte dans le tennis parler de la pression, je me disais mais de quoi il parle, c'est rien du tout. Si c'est quelque chose, c'est quelque chose de très fort. Ça vous prend du temps, ça peut vous ronger. Donc c'est effectivement un élément capital avec lequel il devra compter et qu'il lui faudra gérer. Maintenant, ce qui est très frappant avec Paul Sexas, c'est que non seulement il est très fort sur le vélo, mais qu'il a une maturité absolument hallucinante dans les interviews en français et en anglais. Ce qu'il a dit après sa chute au Tour au Van Ronalp, l'ancien Dauphiné, c'est un modèle du genre. Il tombe et dès l'arrivée, il dit « c'est 100% de ma faute, je suis totalement responsable, je ne sais même pas pourquoi les gars ne m'ont pas laissé dans la pampa, ces gars-là sont fous de m'avoir aidé comme ça ». C'était un patron qui parlait, c'était un champion qui parlait, c'était pas un jeune de 19 ans. C'était un coureur qui d'ores et déjà aujourd'hui en 2026 est un champion, même si son premier Tour de France qu'il va disputer et même s'il n'a que 19 ans. Donc voilà, il va falloir gérer, et ça c'est une inconnue pour tout le monde et d'abord pour lui, les 3 semaines sans aucun doute.
On va se poser la question tout à l'heure. On aura Dominique Series, hein, le patron de l'équipe Décathlon CMA CGM. On se demandera est-ce qu'il faut être exigeant avec Paul Sexas dès son premier Tour de France. Est-ce que le directeur du Tour est aussi attentif, préoccupé dans un sens positif, hein, mais sur l'enthousiasme que peut provoquer auprès du public français aussi quand on va y arriver, d'avoir un coureur qui représente tellement d'espoir pour le général et on va dire l'enthousiasme débordant qu'il peut y avoir sur le bord des routes.
Non, je crois pas plus que ça. En revanche, oui, Paul Sexas, mais comme tous les coureurs, vont entrer dans un tunnel de bruit, ça sans aucun doute. Quand on n'a pas disputé le Tour, ça peut être très très frappant. Je suis très marqué d'ailleurs par le fait qu'il y ait 50 coureurs qui, pour la première fois, vont disputer le Tour de France. Il y en avait déjà 49 l'année dernière. C'est-à-dire que c'est plus de 25% du peloton qui vient pour la première fois sur les routes du Tour. Mais le public, il fait évidemment partie du succès du Tour de France. Hein. Vous savez, on est tous un peu schizophrènes, et moi le premier. On a envie que tout se passe bien, naturellement, c'est le plus important. Puis on a envie aussi de voir les coureurs qui franchissent la foule, tel Moïse traversant la mer Rouge, vont de l'autre côté de la rive. Donc on a envie de ça, on a envie des deux, on a envie de la foule, on a envie que ça se passe bien.
Jérôme,
ouais, no, ça fait réagir. Je vais réagir à cela et demander aussi à Christian, parce que moi je suis ravi et je suis évidemment très excité de voir Paul Sexas au départ. On sait qu'il va y avoir une ferveur populaire autour de lui. Je reste néanmoins, et je voulais savoir si Christian, tu l'étais aussi, et un peu inquiet de voir, depuis quelques années, on voit un peu la montée du supporterisme. Alors des fois, ça se passe très bien, mais on a vu quelques fumigènes arriver dans le vélo, quelques excès. Et on sait aussi, l'année dernière, des excès dans le mauvais sens par rapport au public vis-à-vis de Tadej Pogacar. Et moi, je reste un peu inquiet je suis pas porteur de message, hein, je suis personne
pour le dire. Mais l'important, c'est l'appel à la responsabilité.
Mais évidemment, Paul Sexas va entrer en bataille sportive avec Jonas Vingegaard et avec Tadej Pogacar. Mais il faut rester courtois, il faut rester supporter sur le bord de la route, encourager les coureurs et surtout pas déborder, parce que moi j'ai un peu peur de cela avec l'arrivée d'un jeune Français qui pourrait le titiller à des réactions d'imbéciles, parce qu'ils sont très isolés, hein, en général, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a une inquiétude de ce côté-là, Christian?
Parce qu'il y a un nouveau public aussi avec le vélo, hein, qui est arrivé.
Il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais en effet, cela peut toujours arriver. Le Tour de France, c'est 10 à 12 millions de personnes au bord des routes, donc il n'y a pas des gens qui sont tous des parangons de vertu, bien évidemment. Ce que tu dis, Jérôme, oui, j'y pense aussi parfois. C'est-à-dire, si un Français, si Paul Sexas est encore meilleur que ce qu'on peut imaginer et qu'il concurrence Tadej Pogacar, on peut se retrouver comme il y a 50 ans, entre Eddy Merckx et Bernard Thévenet, et d'avoir un imbécile, évidemment, qui fait quelque chose de répréhensible à un moment contre le champion qui n'est pas français. Ça peut exister partout, malheureusement, oui.
Christian Prudhomme, ça fait quelques jours qu'il y a le mot de la chaleur, évidemment, qui est agité un petit peu partout. Est-ce que ça fait partie aussi des grandes préoccupations avant ce tour sur cette faculté à devoir être attentif en permanence aussi par rapport à ça pour protéger les coureurs?
Oui, alors il y a protéger les coureurs, bien évidemment, c'est essentiel, et puis il y a aussi protéger le public. En vérité, il y a trois populations différentes. Il y a les coureurs, les champions, ceux qu'on regarde, ceux qu'on admire. Il y a les suiveurs, dont faisons partie, vous et nous. Et puis, il y a le public. Sur les coureurs, vous savez qu'il existe un protocole chaleurs extrêmes, un protocole climat mis en place par l'Union Cycliste Internationale avec, en fonction de la température, mais aussi de l'humidité, mais aussi du vent, mais aussi de la vitesse des coureurs, des décisions collégiales qui doivent être prises. Et puis après, il y a l'aspect public qui intéresse encore plus, sans aucun doute, les pouvoirs publics et les autorités. Donc nous avons là des contacts réguliers avec les préfectures. C'est un ensemble de choses qu'on suit évidemment avec attention, avec la volonté naturellement que tout se passe bien. C'est une chose que l'on suit. Les températures seront fortes sur la route du Tour de France, ça sans aucun doute, dès qu'on arrivera en France. On gère ça, j'ai pas envie de dire au jour le jour, on suit ça très très attentivement, et avec les préfectures et avec les responsables de l'UCI.
Et puis une dernière question un peu plus personnelle, Christian. 20e Tour de France, je le disais, comme directeur du Tour. Une question plus humaine, avec toujours la même énergie, avec toujours, je sais pas, on va parler tout à l'heure de la thématique du rêve de gosse pour les coureurs quand ils font le Tour de France. Toujours pareil, Christian.
Alors le gros avantage avec vous, c'est quand j'entends à la radio Marc Madiot ou Christophe Cessieux, j'ai l'impression d'avoir 30 ans de moins. Donc tout va bien. Si je ferme les yeux, Jérôme Coppel
et Jérôme Pinot sont toujours sur le vélo. Quand même, hein.
Ah ouais. Enfin, quand tu les vois, tu sais qu'on n'est pas 30 ans en arrière, par contre. Hein. L'un comme l'autre, L'un comme l'autre, ce métier fatigue.
Non, mais en fait, je ne me rends pas du tout compte que ça fait 20 ans que je suis directeur du Tour. On me dirait ça fait 10 ans, je dirais bien oui. Le temps passe tellement vite et je suis devenu journaliste par amour du Tour de France. La vie a fait que je suis ensuite devenu directeur du Tour. Cet amour pour le Tour, il existe. Le petit gamin de 8 ans qui est devenu amoureux du Tour, il est toujours en moi.
Bon, Christian, et on tira jusqu'au 30e Tour de France, Christian?
Au 50e. Il faut que je tape Jacques Godet, donc il me reste que 30 ans à faire. C'est presque rien. La retraite à 95 ans, formidable.
Non, mais c'est surtout que tu peux pas partir.
En déambulateur.
Tu ne peux pas partir, Christian, avant de voir un Français remporter le Tour de France. C'est pas possible. Ça fait tellement d'années qu'on attend ça. Là, tu vas pas t'arrêter tout de suite. Là, encore 5-10 ans.
Non, mais pour moi, c'est vraiment. Bien sûr que j'aimerais qu'un Français gagne le Tour, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois directeur du Tour. J'aimerais qu'un Français gagne le Tour parce que je suis Français et que ce sont les champions français qui m'ont d'abord fait rêver. Même si l'Espagnol de Mont-de-Marsan n'était pas français, Marc, parce qu'il nous a fait rêver, toi comme
moi.
Oui. Voilà. Que je sois directeur du Tour ou pas n'a rien à voir là-dedans. En revanche, oui, comme citoyen français, je rêverais de voir ça. Ouais, j'ai pas envie de dire tout de suite, forcément, après ça, on peut mourir, mais le plus tard possible, à la manière de Thierry Roland. Mais c'est vraiment le citoyen que je suis, l'amoureux du vélo du Tour, qui dit ça, le directeur du Tour, il souhaite que la course soit la plus belle possible.
Et je suis sûr que tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, évidemment, ont ce même espoir de revoir un Français bientôt avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, Christian. Christian Prudhomme, directeur du Tour, d'avoir été avec nous ce matin. Bon tour. Bon Tour de France.
Et à vous aussi. Et je vous souhaite trois très belles semaines.
Oh, bah ça, c'est toujours le cas.
On fera le club des grands vieux avec Marc et avec Christophe dans quelques années.
ça c'est une nouvelle émission après les grandes gueules du sport. On pourra faire
les grands vieux du sport.
On a été les trois, on est passé dans une maison bleue il y a quelques années.
Vous connaissez bien. Ouais, c'est ça. Vous avez été sur les ondes.
J'étais le porte-micro de Christian Prudhomme pour aller interroger Marc Madiot juste avant Paris-Roubaix, la première fois où il remporte avec son
Frédéric Guédon.
Ça
fera bientôt 30 ans.
Printemps
prochain.
Ah, les anciens combattants. Bon, merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Bon Tour de France. Et merci à Maria Azé, évidemment, de nous avoir permis d'avoir le directeur du Tour avec nous. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on revienne dans un instant. On se pose la question, est-ce que c'est le Tour le plus excitant depuis des années avec vous au 32-16 et avec toute l'équipe des Grandes Gueules du Sport. À tout de suite.
Qui a eu l'idée?
RMC jusqu'à midi.
Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein?
Les grandes gueules du sport.
Tous les chemins mènent à Rome, dit le vieil adage français.
En direct de Barcelone.
Non, tous les chemins mènent à Paris.
Georges Quirino.
En direct de Barcelone pour le grand départ du Tour de France. Chrono par équipe aujourd'hui, intégral tour dès 16h hein, avec Christophe Cessieux, avec Jérôme Coppel, avec Jérôme Pinault qui sont là déjà prêts. Marc Madiot est présent autour de la table. Pascal Duprat également. On était avec le directeur du Tour, Christian Prudhomme, il y a quelques instants. Je vous rappelle qu'il y aura également d'ailleurs la radio digitale 100% Tour de France sur l'application RMC pour écouter notamment les after tours sur les premières semaines. Mais d'abord, tiens, on va faire un point sur France-Nouvelle-Zélande. C'est du rugby. Ça se passe de l'autre côté de la planète à Christchurch. Clément Brossard.
26 minutes de jeu. Nous sommes menés, Georges. 12 à 10. On ne pouvait pas mieux commencer cette rencontre. Pourtant, peut-être la réaction française à l'instant. On est rentré dans les 22 mètres néo-zélandais avec Damien Penaud qui essaye d'insister. C'est lui qui a marqué le premier essai de la rencontre à moins de 2 minutes. Juste après le coup d'envoi, il y a eu la réaction ensuite de Peter Lacaille, notamment pour inscrire cet essai qui a été transformé par Ruben Love qui avait été averti pour un contact à la tête sur Max Spring. Qui est sorti, qui a fait rentrer Antoine Astoy en tout début de rencontre. Les Néo-Zélandais qui sont indisciplinés mais qui sont réalistes depuis 5 minutes et qui leur permet surtout de mener au score après 27 minutes, 12 à 10 pour les Kiwis.
On revient vers toi dans un instant évidemment pour suivre ce France All Blacks. Est-ce que c'est le Tour qui vous excite le plus depuis des années? J'ai plein de messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Tiens, j'ai Fredo qui me dit: mais qu'est-ce que tu entends, Georges, depuis des années? Parce que si on parle de 5 à 8 ans, c'est oui, mais par le passé on a évidemment vibré avec les Tours de Laurent Fignon, évidemment. J'ai Leroy Charlie qui me dit: tiens, je peux te dire que nous les paysans on attend ça avec impatience, on vous écoute toute la journée sur le tracteur pendant les moissons, évidemment. Ton ami Mayenné de Goron, Marc qui les écoute fidèlement tous les week-ends. Pascal Duprat, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tiens, parce que là, on a les grands spécialistes du vélo autour de la table, mais sur l'attente que tu as sur ce Tour de France et l'impatience.
Ben, malgré tout ce que ces grands spécialistes ont dit, ben, j'ai encore envie d'y croire. Je pense que ce tour-là va être extrêmement excitant. J'espère qu'il va être indécis. J'espère que Sexas va se révéler, va se montrer à la hauteur, même s'il est jeune, même s'il y a beaucoup d'attentes qui sont placées en lui. J'espère aussi que Vingegaard, qui a fait un Giro où il a pas donné le coup de pédale en trop, ben, j'espère qu'il est dans la forme de sa vie pour faire en sorte que, avec Evenepoel, peut-être Lipovic, eh bien, il y a de la bagarre du premier jour, et surtout que la dernière semaine, qui semble être une semaine concoctée avec du dénivelé, ben j'espère que cette semaine-là, eh bien, elle va donner le vainqueur du tour, et qu'on va pas être, comment dire, comme ces dernières années, à désespérer que Pogacar, eh bien, domine tout le monde dès la première étape. Donc, j'ai presque envie de fermer les yeux et de boucher mes oreilles sur ces deux étapes à Barcelone. Et puis de voir ce qui se passe après. Et j'espère qu'il sera, peut-être, bien sûr, il sera là, mais il sera pas tout seul, je l'espère.
Tiens, Jérôme Coppel et Christophe Cessieux, on a agité le nom de Jonas Vingegaard. Là, c'est vrai que son équipe dit après un premier grand tour, il est peut-être plus en forme sur le deuxième. On l'a vu sur les données de la Vuelta l'année dernière. Est-ce que vous y croyez au grand Danois, le retour du grand Danois sur le tour cette année, Jérôme et Christophe?
Moi, j'y crois, hein, à Jonas Vingegaard. Ça reste, jusqu'à preuve du contraire, le deuxième meilleur coureur de Grand Tour derrière Tadej Pogacar. Donc, si on ne croit pas en lui, on croit en personne d'autre, finalement, pour concurrencer le Slovène. Il est sorti d'un Giro un peu à l'image de l'année où Pogacar a remporté son propre Giro. C'est-à-dire, il sort d'un Giro qu'il a dominé. On ne sait pas vraiment s'il a puisé dans ses retranchements. En tout cas, on n'en avait pas l'impression. Et depuis le début de sa carrière, son équipe et lui disent toujours qu'il est meilleur en troisième semaine, qu'il est plus endurant, etc., etc. Et je crois surtout qu'au-delà de ça, le Danois avait besoin de changer son programme. Ça faisait de nombreuses années qu'il faisait toujours la même chose, les mêmes stages, les mêmes courses, etc. Mentalement, c'est bien aussi de changer un peu ton approche, et surtout que depuis 2-3 ans, son approche marchait plus vraiment. Donc il fallait absolument changer quelque chose. Et il le dit lui-même, hein, dans ses conférences de presse: physiquement, je me sens bien et j'arrive sur ce tour-là avec un plus grand sourire que l'année dernière. Donc si mentalement t'es bien, physiquement tu sors d'un Giro que t'as gagné, ta saison est déjà réussie, et que t'es content d'arriver sur le tour, bah ça peut que bien se passer. Je crois pas qu'il soit en mesure de vraiment à la pédale de battre Tadej Pogacar, mais ça va être certainement celui qui s'en rapprochera le plus.
Moi, je pense qu'il a récupéré, enfin de son accident d'il y a 2 ans, ouais, où il a été quand même vraiment touché dans sa chair, et il était plus au niveau qui lui avait permis de battre Pogacar. Je pense qu'il est même plus fort peut-être qu'à l'époque où il avait battu Pogacar. Le problème, c'est que le Slovène, lui aussi, a monté le curseur d'un, deux, voire trois rangs. Et je pense que l'écart, aujourd'hui, on va le vérifier dans les jours qui viennent, eh bien, sera toujours conséquent en faveur de Pogacar. Non, ce tour est excitant, il faut bien se le dire, est excitant parce qu'il y a Sexas. C'est surtout ça qui nous fait vibrer, nous, Français. Oui. C'est la possibilité d'avoir un Français qui peut envisager de remporter le tour. Marc a eu
remporté le tour
il y a quelques... Non, mais en tous les cas, de jouer dans le classement général et d'être dans le coup pendant au moins 15 jours, on verra la dernière semaine. Mais c'est ça qui nous excite. Mais on était aussi excités à l'époque où Thibaut, j'allais en parler, où Thibaut était là dans le coup. Le problème, c'est qu'une année, il faisait un grand Tour de France, et l'année d'après, quand on avait de grands espoirs, ben, il n'était pas au niveau. Donc on a été souvent déçus. Mais là, ben, on compte sur Paul Sexas, et on compte sur lui, non seulement cette année, mais pour les années à venir. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'on est excités. C'est ça qui nous
rend
complètement dingue en début de ce tour.
complètement dingue, toi aussi.
Moi, je suis très excité, puisqu'il met l'eau à la bouche. C'est que je me souviens très bien du teasing du Tour de France 2014 avec les quatre fantastiques: Contador, Nibali, Quintana.
Ah bah, on a des messages là-dessus.
Froome, on attendait justement tout le monde. Ouais. Résultat patatras, les pavés, Froome glisse, Quintana est pas là. Et qu'est-ce qu'on a comme podium? Nibali premier, et ensuite deux Français sur le podium avec Perrault et Pinot. Donc on peut se dire que, en faisant monter la sauce cette année comme on l'a fait, on parle des grands, hein, alors évidemment on inclut Paul Sexas dans ces moments excitants, mais Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, et on se dit que, ben, pourquoi pas pour une fois de plus, avoir un gros teasing et puis venir mettre un Français, parce que un deuxième ce serait génial, mais on voit pas trop qui. Mais c'est on a toujours un teasing avant un Tour de France, on attend toujours les grands. Mais le Tour ça dure 3 semaines, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et il peut se passer tellement de choses qu'on a quelque chose qui est à peu près probable et presque sûr, c'est que parmi tous les grands noms, il y en a qui vont pas aller à Paris, il y en a qui vont passer au travers, il va y avoir des défaillances et il va y avoir aussi des déceptions. Alors nous, côté français, bah évidemment, on espère que la déception sera pas Paul Sexas, mais ces grands coureurs-là, il y a forcément parmi eux, il y en a qui vont passer à travers, et pourquoi pas le meilleur d'entre eux.
Ah oui, donc t'as envie de nous vendre le suspense quand même.
Non, on est là pour 3 semaines. Ah, si dès lundi avant la première étape,
j'ai envie de passer 3 bonnes semaines.
Ah, ouais, c'est ça. Ah, bien, bien compris la science du teasing.
Non, mais en plus, ce sont des coureurs qui ont besoin et qui aiment le vélo d'attaque. On dirait, on n'est pas sur des coureurs qui sont dans
c'est,
l'attente.
Oui, mais c'est de l'attaque, mais c'est de l'attaque très contrôlée quand même.
Ouais, bah, sauf certains.
À part Poggi, quoi.
Même Poggi.
Il sait ce qu'il fait quand même.
Oui, hein. Oui. On n'est pas autour de Suisse. Ah oui, on est autour de France et les numéros du Tour de Suisse, ça c'est bien quand on est autour de Suisse. Mais il va pas faire la même chose ici. Là, il va prendre l'ascendant. Il va prendre le lead et il va dire c'est moi le patron. Il va leur faire comprendre sur 2-3 petits endroits que c'est lui le patron et après il va gérer. Et de toute façon, la course se déroulant, si elle se déroule normalement pour lui, progressivement, le temps va venir avec lui. Et le temps qui va venir avec lui, ça va être de l'écart par rapport à ses adversaires. Donc, il va être en situation de contrôle, de maîtrise et d'accompagnement sur 3 semaines. Le but du jeu pour Pogacar, c'est simple, c'est de ne pas être un moment en difficulté et d'offrir des opportunités aux autres. Il n'a pas envie de donner des opportunités aux autres. Il est rentré dans le cerveau d'un certain nombre d'entre eux et il va vouloir rentrer dans le cerveau de tous ses adversaires. Je pense qu'il fait un petit travail de sable gentil et sympathique avec Sexas. Il lui rentre dans le cerveau par petites gouttes. Il a fait la même chose avec Vingegaard et il va installer ça dès les premiers jours.
Pour l'instant, la seule faute qu'il a commise, Tadej Pogacar, c'est sa coupe de cheveux. Hein. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Parce que cette coupe de cheveux,
et on est plus certain.
Non, peut-être que t'as raison. Peut-être qu'à la fin de l'été, tous les gamins auront la coupe de Pogacar. Et
pas moi. Et là,
ce sera pas le cas, en tout cas, de Jérôme Pinot, tout à fait.
Ni Pierre-Yves Leroux.
Et on vous retrouve dans l'intégral tour tout à l'heure. Christophe Cessieux, Jérôme Coppel, merci d'avoir été avec nous pour le début de cette émission. Évidemment, ce sera 16h, hein, parce que le chrono par équipe va finir très tard, après 19h. Donc restez connectés, mais c'est bien, ça vous fait une longue après-midi avec le tour, avec la Coupe du Monde ensuite ce soir à 23h. Merci Jérôme, merci Christophe d'avoir été
salut les copains
dans les GG. Et tiens, dans les grandes gueules du sport aujourd'hui, on fête le départ du tour RMC avec Mondial Relais by InPost, partenaire majeur du tour, vous propose de vivre une expérience incroyable lors de la 13e étape du tour le 17 juillet Dol Belfort. Vous et la personne de votre choix, vous pouvez vivre l'expérience unique grâce à Mondial Relais, l'étape dans la caravane du tour, et vous suivrez l'arrivée dans un espace VIP avec vue sur les derniers mètres pour gagner ce magnifique pack avec Mondial Relais by InPost. Envoyez étape au 7-32-16, étape au 7-32-16.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Mondial Relais, partenaire officiel du Tour de France pour la 3e année. Mondial Relais, plus de 10 000 lockers et 17 000 points de collecte partout en France.
Tiens, et avant de se quitter quelques secondes, Clément Brossard, les Bleus, le 15 de France est repassé devant il y a quelques instants face aux Blacks.
5 minutes avant la pause, la France est devant, 13-12, l'essai de Damien Penaud pour son grand retour à moins de 2 minutes après le coup d'envoi, et ensuite la réaction de Will Jordan et de Peter Lacaille pour les Néo-Zélandais, mais c'est la pénalité de Maxime Lucu qui permet aux Français d'être devant à 35 minutes.
La France devant, effectivement, à 5 minutes de la mi-temps. On revient dans un instant ici depuis Barcelone pour le grand départ du Tour de France. Mais on va parler de la Coupe du Monde. L'Argentine a failli prendre la porte hier. Hein, tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirino.
Pour le grand départ du Tour de France aujourd'hui, évidemment avec le chrono par équipe dans Barcelone, toujours 13-12 hein, pour le 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. On retrouve Clément Brossard dans un instant sur le ring. On va parler de l'équipe de France de foot ce soir à 23h face au Paraguay. Est-ce que Didier Deschamps vous surprend pour sa dernière Coupe du Monde? On vous attend pour voter sur le compte X. Mais tout de suite, vous nous dites si on s'en fout ou on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas, l'Argentine s'est fait très peur face au Cap-Vert, mais passe en huitième de finale. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Marc.
On s'en fout surtout pas.
Jérôme.
Évidemment qu'on s'en fout pas.
Victoire des coéquipiers de Léo Messi la nuit dernière face au Cap-Verdien aux prolongations. Hein. Il y avait deux partout à l'issue du temps réglementaire. Et, non, pardon, il y avait un partout. Et ensuite, les buts ont été marqués lors des prolongations. Messi a marqué son 7e but de la Coupe du Monde. Ils retrouveront l'Égypte en quart de finale vainqueur de l'Australie au tir au but. Tiens, on va écouter Léo Messi après la rencontre.
On avait fait le plus difficile en marquant le premier but. On pensait qu'on allait pouvoir développer notre jeu et être plus tranquille. Mais finalement, ça a été tout le contraire. En face, ils se sont battus avec leurs armes, ils n'ont rien donné. On sous-estime toujours certaines sélections, mais on savait que ça n'allait pas être facile.
Le Cap-Vert qui finit cette Coupe du Monde invaincu, hein, en étant éliminé parce qu'ils ont fait que des matchs nuls. Non mais Pascal, c'est une première alerte peut-être même sur le niveau de l'Argentine pour toi sur ce mondial ?
Ouais, c'était franchement moyen dans le jeu. Heureusement qu'il y a Messi, qui a marqué par hier d'ailleurs certainement le plus beau de ses 7 buts. Un contrôle en pleine course de l'extérieur, une frappe du coup du pied, pleine lucarne. Enfin, incroyable. Et Messi, il est passeur d'ailleurs sur le but vainqueur. Et par contre, le Cap-Vert, impressionnant, de résilience, qui a marqué aussi des buts magnifiques. Cabral a marqué un but fantastique pour l'égalisation en 2-2 pendant les prolongations. Mais moi, ce qui m'inquiète, ou ce qui me rassure pour la France, c'est que je pense que si Messi a un coup de moins bien pendant la Coupe du Monde, ça pourrait peut-être lui arriver, eh bien, l'Argentine est, comment dire, c'est comme si on lui coupait un bras, en fait, ou une jambe, ou les deux. Donc voilà, c'est décevant dans le jeu.
Ouais, et d'autant que Lautaro Martinez et Julian Alvarez, les deux attaquants, pour l'instant n'apparaissent pas vraiment. Hein. Jérôme,
non, Argentins. Et puis moi j'ai toujours pensé que cette équipe argentine, si elle devait tout se reposer uniquement sur Léo Messi, ça le fera pas. Pourquoi ? Parce que Léo Messi, ok, il est très costaud, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est la légende qu'on connaît. Mais pour faire la différence face à des grandes équipes, des grandes nations, ça suffira pas, Léo Messi. Et moi, je complète ce que dit Pascal, évidemment, qui lui est un très grand connaisseur, c'est fragile en défense. On a vu hier la défense argentine prendre parfois le bouillon face à des attaquants capverdiens, avec tout le respect que j'ai pour eux. Quand ça va être du Harry Kane, du Mbappé, du Olysée ou quoi,
c'était compliqué pour Facundo Medina.
Marseille, Facundo Medina, on l'a bien retrouvé blessé, Marseillais hier.
Ouais, exactement. Ah ouais.
Donc, mais sur les deux, je crois, hier. Sur les deux buts du Cap-Vert, il y a un attentisme et ils sont trop loin en défense. Ils sont pas là. Et donc si tu joues contre plus rapide, plus fort, plus et il y en a beaucoup, ça risque de se payer très cher.
Tiens, je vous rappelle que la Colombie est passée, hein, cette nuit, victoire 1-0 face au Ghana, score, comme prévu. Hein, ouais, voilà, donc on a tous les résultats des 16e de finale, place au 8e désormais. C'est la mi-temps rugby, Clément Brossard, entre le 15 de France et le All Blacks.
Et on est mené, Georges, avec cet essai de Cam. On regarde le troisième essai pour les Néo-Zélandais, le demi de mêlée des Hurricanes, qui nous a sorti un petit crochet juste devant la ligne d'en but, qui a mis sur les fesses la défense française, ce qui fait un score de 22 à 12, plus 10 pour les Néo-Zélandais à la mi-temps.
Plus 10 pour les Néo-Zélandais à la mi-temps. On rappelle que c'est le championnat des nations. Hein. Bon, c'est l'équivalent de la tournée dans l'hémisphère sud, mais ça en a un petit peu changé en mini-championnat désormais pour le 15 de France. Donc à Christchurch. Allez, on est un peu pris par le temps, les amis. Hein, je vais pas vous le cacher. Donc on va revenir dans un instant parce qu'on a beaucoup parlé du Tour de France pour parler de France-Paraguay. 23h ce soir à suivre sur RMC. Il y aura Manu Petit, Jean-Louis Tour en commentaire notamment. On va prendre les dernières nouvelles. Tchouaméni forfait. On va en parler dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.